France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je suis Alexandre Kantorov. Je suis né à Clermont-Ferrand en 1997 et je suis pianiste.
La fin de l'épisode précédent portait sur la rencontre avec Rena Cherechevskaya. Rencontre décisive pour Alexandre Kantorov qui va préparer auprès d'elle le concours Tchaïkovski de 2019. Retour aujourd'hui sur ces longs mois de préparation, guidés par celle qu'il surnomme affectueusement le gourou mystique, une personnalité singulière, capable des plus grandes envolées lyriques comme des conseils les plus concrets.
Elle va avoir des choses où elle dit, voilà, le bras, il doit être exactement comme ça si tu veux obtenir ce résultat, ou la pédale, travaille la pédale sur ça. Et là, faut pas changer la pédale comme un débile sur chaque mesure. Faut trouver les harmonies où elles peuvent se lier pour que la mélodie tienne longtemps, pour que on ressente vraiment le basculement. Donc, vraiment des attentions à des choses que j'avais jamais fait attention à et des priorités musicales nouvelles. Et voilà, après, elle a tout ce délire où, pour elle, par exemple, elle part dans des symbolismes dans la musique où elle imagine que chaque mélodie, chaque petite mélodie, tous les compositeurs savent ce qu'elle veut dire. Par exemple, et que ça remonte à Bach, même aux passions de Bach, où on peut retracer, ces quatre notes, là, ça veut dire quelque chose. Et les compositeurs le savent, ils l'utilisent. Et donc, dès quand tu le vois dans ces musiques-là, c'est parce que il y a une toile entre tous les compositeurs où ils partagent et ils utilisent ces motifs pour avoir de la consistance dans leurs œuvres.
C'est l'idée de la généalogie des thèmes.
Ouais, une idée comme ça, exactement. Et donc, voilà, c'est cette balance folle entre personne très concrète qui veut apporter une base technique solide et vraiment faire attention à chaque détail. Et en même temps, voilà, cette sorte de personne qui change toutes les semaines, qui nous ébranle, qui passe ensuite sur le moment, après avoir le moment du concert en répétition, elle vient juste avant. Et là, dans la salle, ça marche pas tout ce qu'elle a dit, parce que par rapport à chez elle, où on en a avec un son particulier, elle fait non, timbre plus, là, dans cette salle, avec orchestre, par exemple. Et du coup, on est à la fois perdu et ensuite, on se rend compte à quel point ça nous forme comme musicien. Ça nous montre toutes les choses qu'on doit, s'adapter, comme sur un piano, mais le même piano dans deux salles différentes sonne pas comme le même piano, en fait. Et on se fait avoir quand on nous dit, c'est le même piano que t'as joué il y a deux mois et que c'est sur autre part et on le reconnaît pas. Quelques mois avant, on se voyait trois fois par semaine. Elle appelait, elle envoyait des choses et elle augmente soudain le champ des possibles. Elle montrait le pouvoir d'une interprétation, d'aller au fond et d'avoir plein de possibilités de compréhension de l'œuvre, et que tous ces réflexes-là qu'on a ensuite sur le moment du concours avec le stress, et bah oui. Et c'est vrai, parce que le premier tour, c'était la fois où j'ai le plus stressé, je pense, de toute ma vie.
Donc c'est 2019.
C'est 2019, ouais.
Et quand vous arrivez à ce concours, vous dites, j'ai jamais eu aussi peur que pendant le premier tour. Vous avez eu cette préparation incroyable, à la fois mentale, technique, musicale, etc. avec donc Rena Cherechevskaya. Mais vous nous dites que c'est quelqu'un aussi qui a cette forme de folie, qui va changer comme ça d'avis entre les semaines. Pour autant, il faut être convaincu de sa propre vision.
Sa plus grande épreuve, au fond. C'est presque comme si, au milieu de tout ce paradoxe et de toutes ces visions qu'elle nous donne, en fait, son plus grand but, c'est qu'on arrive sur scène et qu'on soit le plus convaincu, et quitte à détruire tout ce qu'elle a dit. Mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est être assise et se faire prendre au trip par ce qu'on fait, en fait, et ressentir vraiment une émotion forte. Et bien sûr, elle a des priorités musicales. Le chant doit durer très, très longtemps. Elle veut qu'on l'entende les notes jusqu'au bout. Et juste le fait que nous, on ait conscience de ces notes qui se disparaissent fait que les gens l'écouteront. Et Mais en fait, c'est malgré toutes les myriades d'informations qu'elle nous donne et contradictoires, tout ce qu'elle attend, au fond, c'est qu'à la fin, on soit nous-mêmes et qu'on est, on la bouleverse. C'est la première spectatrice, en fait, de ce qu'on fait. Elle nous avait, avant le concours, un an avant, emmené avec plusieurs gens de sa classe à Moscou, déjà, pour faire quelques concerts.
C'était à l'école normale.
À l'école normale, ouais. Et je me souviens, c'est là où j'avais rencontré Lucas, parce qu'il jouait, lui, à ce moment-là, à Moscou. Et c'est là où j'ai eu le premier contact avec lui. Tout de suite, il a été adorable, parce qu'il a... Je lui avais parlé que je pensais le tenter aussi, 4 ans, il a été très grand frère. Il a été toujours, même une semaine avant que je parte à Moscou, il est très important pour lui qu'on prenne un verre, pour qu'on parle, pour que, voilà, il me donne son soutien, qui juste, voilà, me donne toute cette positivité, et en fait, qui vient de toute cette force qui viendrait avec le concours, et il a suivi toutes mes épreuves, et il m'écrivait, et donc ça, je remercie vraiment beaucoup pour ça. Parce que c'était déjà pour lui que à la base, j'étais allé voir Rena, et de voir son soutien et de voir que j'avais aussi son respect musical, c'était important, c'était très important.
Ce concours, ça a été comme une forme de rite de passage.
Oui, vraiment. C'était à la fois un rite de passage aussi avec l'idée que, quand même, voilà, tous les premiers concerts, comme je l'ai dit, ça venait de mon père et j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Et c'était ce premier truc de ça va être juste moi, ça va être. Et le concours.
Un prof que j'ai choisi.
Ouais.
Aussi.
Ouais, oui, c'est vrai.
C'est jusque-là, vous avez eu les bons profs au bon moment, mais finalement, c'était eux qui étaient là et c'est dans leur classe. Là, c'est votre désir.
Oui, vous avez raison, c'est vrai. J'avais jamais pensé ça, mais oui, c'est vrai. C'était aussi la première prof que j'avais consciemment recherchée. Et le concours a cet avantage que c'est quand même une des formes importantes aujourd'hui de pouvoir se faire connaître, en fait. Et donc.
Bah là, c'est quand même 16 millions de personnes qui vous regardent, alors c'est pas confidentiel.
Non, c'est pas confidentiel, bien sûr. Ouais. Et donc, ouais, je ressens vraiment la pression le premier tour, étonnamment. Alors que je pensais, naïvement, avec cette expérience de concert que j'avais, pouvoir m'en sortir, pas du tout. C'était un prélude et fugue de Bach, la première chose que je jouais. Et je vois le gouffre s'ouvrir et je vois toutes ces heures, je vois à quoi elles ont servi. Je vois ce fait de même, en n'étant pas là, en n'étant pas derrière tout ce que je fais, en étant avec une sorte de non-confiance, avoir quand même ces réflexes, avoir quand même ces choses qui font que, ok, je peux me trouver un chemin. Et je vois, voilà, tout ce travail, il a servi à ce qu'il y ait des vraies lignes creusées où je pouvais quand même avoir des rails et je pouvais quand même aller jusqu'au bout et faire ma prestation. C'était quand même loin de ce que je savais que je pouvais donner. Heureusement, je suis passé. Heureusement, c'est vraiment le moment où il y a eu le plus de doutes. Parce qu'après, voilà, j'étais ravi que ma tête m'a laissé en paix et m'a laissé profiter
pour la
demi-finale. Où là, c'était un programme choisi entièrement par les candidats. Donc déjà, on a cette chose de, voilà, c'est notre récital, c'est notre moment, c'est juste nous, on présente ce qu'on est dans le programme. Et là, oui, là, je commence enfin à vraiment profiter de la salle, à profiter des fantômes du passé, savoir, voilà, on voit les portraits de Rachmaninov, on voit Tchaïkovski, on voit l'histoire du lieu, on travaille dans les mêmes salles que où ils ont travaillé. Donc, ouais, ça continue. C'est aussi marrant, je suis avec... on est en coloc, les étrangers, dans l'hôtel, parce que... donc, on est à deux par chambre, et je suis avec un Américain qui est allé aussi en finale, qui a eu le troisième prix. Et lui qui est un vétéran de concours parce qu'il y avait un prix Van Cliburn et pareil, lui aussi grosse aide. Il est vraiment le gars le plus tranquille du monde. En fait, j'ai l'impression qu'il est jamais stressé et du coup, il me donne des petits conseils, mais il appelle toujours à la réception, il demande des seaux de glaçons, tremper ses bras après toute la journée parce qu'on passe la journée à travailler juste tous les jours et à jouer. Donc, dans le moment, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Il fait tranquille, mets ça et tout avant de dormir. Donc, pareil,
bonne étoile.
Ouais, il y a la bonne étoile. Et puis, c'est sympa. On a fait tout le concours ensemble, comme on est allé en finale tous ensemble. Donc, Il y avait un peu plus sentiment de communauté aussi qui a pu se mettre en place. Et Rena est venue, Rena était là. Et donc, elle aussi, elle a pu me faire oublier là, ce don vraiment de nous faire oublier ce qui se passe à côté. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on ouvre ses oreilles et qu'on se plonge. Si on arrive à ouvrir ses oreilles, à se concentrer vraiment profondément que sur le son, le reste, on l'oublie. Et du coup, voilà, le deuxième tour, je me sens vraiment bien mieux. Et je suis content déjà simplement d'être en finale pour jouer tout mon programme. C'était le maximum que je pouvais demander à la base. Donc ça, c'était ce que je voulais et j'étais juste content d'avoir obtenu ça.
France Musique, les grands entretiens d'Alexandre Kantorov.
La finale, c'est deux concertos. Vous ne choisissez pas les plus classiques des concertos. Deuxième de Tchaïkovski, deuxième de Brahms.
Le deuxième de Brahms, c'était celui que je voulais de toute façon jouer. C'était important, c'était le concerto que j'aimais le plus. Brahms avait pris beaucoup de place à ce moment-là. Et déjà depuis la phase Schifra, quand j'ai commencé à écouter beaucoup plus de musique, c'est vraiment ce compositeur qui m'a marqué. Il y avait ce mélange de logique implacable, parce que ses œuvres sont tellement construites, sont tellement... Il a cette manière de souvent partir de juste la chose la plus basique, la cellule la plus basique, et juste à partir de là, de tout créer autour de cette cellule, cette sorte de rigueur totale, et ce lyricisme, la dignité dans les émotions, la grandeur noble, le lien entre le piano et l'orchestre est magnifique, parce qu'il accompagne, il est soliste, il joue en musique de chambre, il fait partie de la grande symphonie.
Donc, le mouvement lent qui est magnifique aussi.
Cette
espèce d'effacement, enfin, c'est très beau.
Ouais. Et donc, je voulais absolument le jouer, et j'avais commencé ensuite, sans trop y penser, le premier concerto de Tchaïkovski. Donc, c'était le concerto qu'on travaillait avec Rena, et j'y arrivais pas beaucoup. Je sais pas si c'est parce que je l'avais tellement entendu que je savais pas quoi en faire, je me cassais la tête, et un jour, ici, il y avait la partition de Tchaïkovski du deuxième concerto. Mon père, il avait dirigé beaucoup, et donc, je prenais le conducteur, et je commençais à regarder je l'avais entendu qu'une fois à l'époque, mais j'avais pas de souvenir marquant de ça, et donc je commence à l'ouvrir, et pour moi, voilà, c'est vraiment la découverte du nouveau monde. Je suis... voilà, ça fait du bien. J'ai l'impression que je suis le seul à découvrir cette pièce.
Pas on se sent peut-être plus légitime de dire quelque chose. Peut-être pas le bon mot, mais.
Il y a cette découverte de chaque note. Il y a ce plaisir vraiment de se dire, de voir les surprises de la partition et de pas les prendre pour acquis.
Parce qu'on devait. Une fraîcheur.
Ouais, voilà. Et donc, ça, c'était peu de temps avant le concours. C'est la seule surprise du programme où c'était 6 mois avant le concours. Et là, on se dit, OK, on va y aller. Et elle voit que je suis passionné par cette pièce. Et donc,
Rena?
Rena, elle voit ça, et donc on y va. Et oui, c'était un long programme. À la fin, c'était un peu pesant de faire ces deux concertos à la suite, mais ça a permis cette chose un peu unique de se donner tellement dans le premier concerto. Là, c'est encore le moment où on arrive, on a la pression du moment, on vit. Et ce moment, après, on a fini. Et normalement, c'est fini, un concerto. Et donc, il y a ce soulagement, ce détachement. On a peu de temps, on a 5 minutes entre les deux concertos, le temps qu'ils changent la disposition de l'orchestre et qu'ils fassent la pause sur les caméras. Et je m'effondre et j'ai l'impression que c'est fini. Et donc, pour jouer le deuxième concerto de Brahms, ça arrivera plus, hein, mais je suis dans cet état de,
c'est un long bis.
C'est un long bis, il y a rien, c'est fini. Il y a rien à prouver. Et là, je vis un des grands moments de ma vie en musique. Je peux juste profiter vraiment de ce qui est en train de se passer, de l'orchestre.
Prendre des risques?
Oui, bien sûr. Mais alors, ça, prendre des risques, j'ai toujours fait, c'est même prendre trop de risques souvent avec le concert que j'ai pas la tête très claire quand je joue, et donc souvent les problèmes viennent quand je donne trop, je lâche tout sans considération trop tôt, et c'est là où je perds du fil. Non, c'était pas trop dans la prise de risque, c'était juste dans la plénitude, même dans le son, d'avoir les bras totalement relâchés, d'avoir cette joie et cette détente et rien de plus. Et là, je vis vraiment ce moment magique, et puis après, je pense, je sens qu'il s'est passé quelque chose avec le public. Et c'est tout ce qui m'importe. Je vis le meilleur moment de ma vie, la meilleure soirée après. Et donc, je pense pas aux résultats. Et après, les résultats arrivent. Et les résultats, quand ils annoncent le premier prix, malheureusement, je le vis peu, en fait, où il se passe trop de choses. Donc, j'ai un peu une barrière mentale qui se met en place et je reçois, je comprends.
Denis Matsuev qui était le président du jury.
Oui, c'est Denis Matsuev, ouais, absolument. Et puis, c'était un jury incroyable. Il y avait Nelson Frère, il y avait, je veux dire, c'était des pianistes.
Menahem Pressler.
Ouais, Menahem Pressler qui était là, ouais, bien sûr. Oui, c'était, même si j'en aurais pas parlé, juste de serrer leurs mains à la fin, de les voir. Ça, c'était étonnant. Mais oui, je sens malheureusement que ce prix, je l'ai vécu bien plus tard.
Первая премия Александр Кондоров.
Après, il y a une tournée, c'est ça? Enfin, un concert.
On a deux concerts à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et c'est là où je rencontre Gergiev. Parce que jusqu'à là, c'est le président du concours. On le rencontre pas avant. Et donc là, on a ce concert surréaliste. À Moscou, déjà, on a le premier gala et ça va. Et le concert à Saint-Pétersbourg, vraiment surréaliste, où je répète pas avec Gergiev, mais avec son assistant. Et on est tous dans des loges, au fond. On est énormément. Le concert commence à 19h. Personne ne sait dans quel ordre. On a une voix qui nous appelle dans les loges et qui juste gueule les prénoms en mode « Toi, prochain !» Et à 2h du matin, ensuite, après 6h de gala, je monte sur scène. Et là, on joue avec Gergiev. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils annoncent le Grand Prix. Ils l'annoncent en russe, donc je comprends même pas que c'est...
Que oui, parce c'est, que vous avez eu donc le premier prix du concours, mais il y a aussi un Grand Prix.
Voilà, oui, oui.
Qui est décerné rarement.
En fait, je sais que la presse l'a transformé un peu en décerné rarement. En fait, non, il a toujours été décerné. C'est juste qu'il a été créé très récemment par Gergiev. Et il l'a donné chaque année. En fait, la première année, il l'a donné à Trifonov. Puis il l'a donné à un chanteur. Et puis là, j'étais le troisième à recevoir ce Grand Prix. Mais donc voilà, ça s'est retrouvé comme ça. Et ensuite, voilà, pareil, là, je pense rentrer chez moi. Non, pas du tout. En fait, là, il y a des concerts qui bookent avec le gagnant. Et donc, je me retrouve à jouer en Finlande, en Allemagne. Et
donc, tout ça dure combien de temps, en fait?
Ça dure, en tout, depuis le moment où je vais à Moscou pour le concours, ça dure peut-être un mois et quelques, un mois et une semaine ou deux semaines, quelque chose comme ça. Et ouais, je rentre et après là, de toute façon, j'avais prévu un mois où il y aurait rien après le concours en août, donc on refuse quand même les concerts et je partais un mois au Vietnam. Et ensuite, les concerts ont commencé et là,
Et le Vietnam, ça suffit pour pour intégrer l'information?
Ouais, quand même, ça un mois entier, pareil sans piano, vraiment ça, oui, un peu plus me rendre compte de ce qui se passe. Ouais, mais là, il faut faire vraiment des choix parce que j'ai voulu faire ce projet là tout seul et maintenant il faut que je l'assume et du coup j'ai la responsabilité d'une histoire de concours et je sens qu'on me demande des questions très pragmatiques sur dans 2 ans qu'est-ce que je veux jouer, sur des agents, sur les maisons de disques et tout et je suis content d'avoir à l'époque, je pense, pris une décision de rester avec même agent, même maison de disque, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, et ça fait qu'il y avait un ancrage, et puis ma famille, et puis mes amis, je sentais, voilà, au moins j'avais une vraie attache, et que je pouvais pas non plus faire n'importe quoi, et qu'ils le verraient en premier, en fait, si j'allais faire n'importe quoi. Donc, j'avais ces bases-là vraiment autour de moi, et ensuite, j'ai commencé un peu naïvement le reste de la carrière, et oui, j'ai vécu un an de sorte de bande-annonce de ce que allait être la carrière, où j'ai vu l'intensité que ça demandait, j'ai vu aussi le peu de temps que j'aurais pour préparer ensuite des pièces. Et c'est, je pense, la chose qui est le plus compliqué, même encore aujourd'hui, à gérer, c'est Voilà, d'apprendre une œuvre en plein milieu d'une tournée, c'est quelque chose qui est pas naturel. Toutes ces prises de risque où je passe d'une préparation énorme pour un concours de 1 an et demi à bosser le même programme, à préparer des œuvres, les remonter une œuvre qu'on a jouée il y a 4 ans, mais la jouer tout de suite, parce qu'en plus Gergiev il est très boulimique de répertoire, donc tous les concerts avec lui c'était souvent il voulait des œuvres nouvelles, ça tu peux le faire, il y a pas de problème, il est très dans le spontané, et donc ouais, j'ai dû apprendre à faire ça, et ça c'est aussi vraiment parmi les expériences où on apprend le plus aussi.
Mais c'est satisfaisant ou c'est pas satisfaisant? C'est peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif à devoir courir après la note.
Il y a quelque chose de contre-intuitif. Après, il y a quelque chose où on apprend tellement sur soi on se donne du courage aussi, on se rend compte de, ok, en fait, on peut le faire. On peut le faire même si c'est pas agréable et c'est compliqué. On peut le faire. On apprend aussi à comprendre la scène quand on est en orchestre. On apprend les endroits, comment on structure une œuvre sur le moment, comment est-ce qu'on peut compter sur soi, est-ce qu'on a une personnalité qui a tendance à saboter le concert ou pas. Et en plus, quand on a la pression justement d'avoir peu de temps et toutes ces choses-là, c'est des choses que même toutes les heures de répétition et toute la préparation peuvent pas apprendre. J'ai appris énormément en fait de ces moments sur scène.
Est-ce que Bach, ce serait aussi un rite de passage, un premier récital Bach ?
Oui, bien sûr, oui, ce sera un rite de passage. Parce que je pense qu'il me faudra, j'espère avec les années, le développer, la tête quand même un tout petit peu plus froide sur scène pour arriver à jouer Bach. Parce qu'il faut donner énormément de profondeur et d'émotion, mais il faut avoir la clarté dans la tête de toutes ces lignes en permanence qui jonglent, et on peut pas en lâcher une, et on peut pas juste tout balayer d'un geste émotionnel et hop, c'est bon. Il y a cette beauté en fait de toutes ces voix, avec la période des Lumières où il y avait vraiment cet optimisme et cette corrélation entre la science et la musique, et donc le jusqu'au boutisme de la pensée humaine sur la musique et de cette construction. Donc il faut arriver à la rendre en public, et il y a des œuvres de Bach qui sont, je trouve, pas des œuvres très compatible avec une grande salle et une grande audience. Et donc, les jouer, ça va demander une tête bien froide, je pense, et bien claire. Et ça, je l'ai pas encore. Donc, je pense que c'est ça qui va faire que le rite de passage arrivera, mais avec un peu plus de dissociation dans la tête.
Et c'est Jean-Claude Pelletier qui disait ne pas pouvoir jouer Bach autrement qu'à genoux. Et finalement, du coup, ne le jouer que pour lui. Il y a cette forme de mystique aussi qu'il avait. C'est une composante essentielle dans la vie de musicien. Qui est la vôtre, d'avoir cette transcendance, cette croyance, cette mystique, cette spiritualité.
Étonnamment, elle arrive quand même d'un esprit à la base assez logique, assez scientifique, assez ça arrive, ça vient, et on se met à croire à des choses inconnues, à des mystères, on se met à croire une sorte de frontière fine qu'on trouve quand on se met dans le monde de la musique avec une sorte d'autre monde. On a dit oui, il y a des sensations qui commencent quand on les éprouve régulièrement à faire croire à des choses, ouais. Et je pense que c'est joli quand même, enfin d'avoir la croyance en des choses qu'on pourra pas comprendre, et avoir la croyance en des choses qui nous dépassent. Et je pense que ça donne beaucoup de courage et de volonté en fait. Ça peut être très pesant en fait de se dire que c'est toujours juste nous bloqués sur Terre, de manière consciente, avec juste le poids de simplement nos actes et rien de plus. C'est joli aussi de temps en temps s'alléger l'esprit avec le fait qu'il y a des forces autres qui peuvent nous gouverner. Je vois. Mais...
Thank you.
un extrait de la cantate BWV 27 de Bach par le Bach Collegium Japan dirigé par Masaaki Suzuki. Ainsi se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Alexandre Kantorov, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.